Eh bien, bonjour à chacun. Mon nom est Gilles Farley. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'un des pasteurs ici à l'Église de Saint-Dié. Bienvenue à ceux qui sont sur, qui nous écoutent en ligne aussi. Et je sais que c'est le temps des vacances. Il y en a peut-être, c'est la première fois qu'ils viennent ici. Alors, on vous souhaite une bienvenue spéciale. Aujourd'hui, depuis tout l'été, en réalité, on est en train de faire une série sur les promesses de Dieu. Et aujourd'hui, c'est les promesses de Dieu dans l'épreuve. Je dois vous dire que c'est pas un sujet dont on aime parler, l'épreuve. Et c'est un sujet qui va soulever souvent des émotions et un rappel, des souvenirs qui étaient tristes. Et je suis conscient aussi que ici ce matin, comme partout dans le monde, il y a des personnes qui passent à travers des temps qui sont pénibles, qui sont difficiles, qui sont des épreuves. Et ça fait quelques années que je suis ici, donc je sais qu'il y en a qui ont passé par des épreuves terribles, mais aujourd'hui, il y en a qui passent aussi par des épreuves qui sont difficiles. Que ce soit la perte d'un proche, la perte peut-être de l'autonomie d'un proche. Et une sœur à nous, son mari souffrait d'Alzheimer et elle disait qu'elle était endeuillée, mais que c'était un deuil en blanc. La souffrance était probablement pire encore. Parfois, c'est le diagnostic d'une maladie là, qui, je sais, on entend les nouvelles et, ou la perte d'un travail. Alors, c'est un sujet qui est, disons, pertinent. Je vais vous dire tantôt que l'épreuve est bénéfique pour le croyant. Vous allez dire, bien, une minute, là. Personne prie pour avoir une épreuve. Mais je le crois, je l'ai vu, et la Bible nous le dit. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre nous disent que dans l'épreuve, c'est un temps où l'enfant de Dieu est béni. Oui, il y a la douleur, la tristesse, bouleversement, dépression et découragement, mais quand même, l'épreuve va être une bénédiction pour l'enfant de Dieu. Mon but ce matin, c'est... c'est vrai, hein? C'est vrai. Florian, je m'en viens, là. Je dois faire avancer les diapos. Alors, mon but ce matin, c'est... comment est-ce qu'on peut affronter l'épreuve? Comment est-ce qu'on peut surmonter et vraiment être béni dans l'épreuve. Et on va le faire en examinant ce que la Bible dit comme de raison. Et on va voir comment se préparer pour la souffrance. Comment est-ce qu'il y a des choses qu'avant que l'épreuve vienne, est-ce qu'il y a des choses qu'il est bien pour le croyant de faire afin que l'épreuve, on puisse passer à travers cette épreuve-là. Et ensuite, on va voir comment Dieu utilise l'épreuve. Qu'est-ce qu'il fait dans chacun de nous? Qu'est-ce qu'on peut observer comme changement? Et je vais finir avec une liste des promesses de Dieu dans l'épreuve. Et je dois dire, j'ai écouté les messages sur les promesses de Dieu et il n'y a pas eu une prédication qui ne faisait pas mention des promesses de Dieu dans l'épreuve. Et c'est normal. C'est là qu'on a besoin d'entendre les promesses de Dieu. À chaque époque, et surtout dans laquelle où on vit, les épreuves sont nombreuses. On les voit. C'est rendu que j'aime pas écouter les nouvelles, parce que je trouve que les nouvelles nous répètent les mêmes tragédies, il n'y a aucun progrès, toutes sortes de promesses pour les régler. Et quand il y en a un qui semble peut-être être réglé, eh bien, un conflit s'élève. Mais les guerres ne sont pas les seules épreuves qui sont présentes dans nos vies. Et je vais Je vais passer à travers différentes épreuves là, qu'on voit. Il y a certainement celle des épreuves qui affectent tout le monde. Et ça, vous pouvez en faire une liste dans votre tête. Ça peut être la maladie, ça peut être le résultat de relations brisées, soit dans le couple, soit avec un parent, un enfant, avec son parent, avec des amis. Ça peut être un accident banal, un enfant qui se fait frapper accidentellement et perd un membre. Et on entend cela. Ça peut être des désastres naturels aussi, vous les connaissez, là, l'inondation, le feu, glissement de terrain récemment, des tsunamis. Hein? On a vu la conséquence du tsunami qu'il y a eu en Indonésie, là, quelques années déjà. Une éruption de volcan, on en voit moins, mais j'étais allé visiter Pompéi quand on a fait un voyage en Italie et on a visité la ville de Pompéi qui n'existe plus maintenant. C'est une ville qu'on visite et on voit des corps calcinés. Et il y a aussi les épreuves qui sont le résultat de grandes méchancetés. Les guerres, l'Holocauste, les génocides et l'impact d'un régime totalitaire. Et puis ensuite, on peut ajouter à ça les mouvements terroristes qui n'hésitent pas à prendre un camion et conduire dans une foule. Ces épreuves-là affectent tout le monde. Ils affectent ceux qui ne sont pas des croyants, mais ils sont aussi là pour les croyants. Et ensuite, il y a celles qui sont particulières aux chrétiens, qui sont le résultat, mettons, de la discipline paternelle de Dieu. Et on voit un passage bien connu qui nous rappelle que Dieu va intervenir, comme un père va intervenir pour corriger ses enfants. Et vous voyez à l'affiche Hébreux 12, 5 à 6. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Eh bien, ça arrive dans chacun de nos vies, dans ma vie, certainement, que le Seigneur a dû intervenir pour me montrer qu'il y avait des choses que j'étais en train de penser, de faire, qui ne lui étaient pas agréables et que c'était pour être néfaste pour moi, pour ma relation avec Dieu, peut-être avec ma famille et avec les frères et sœurs. Et le verset 11, qui est aussi là, nous indique que la correction vient toujours avec une certaine tristesse. On n'aime pas la correction. Même si on en a besoin, même si on voit que ça a été bien pour nous, on n'aime pas la correction parce que ça fait mal. Mais on voit que c'est pour notre bien et ça produit dans notre cœur un fruit que l'auteur appelle la justice. Puis ensuite, il y a l'opposition et la persécution aux chrétiens. C'est une autre sorte d'épreuve qui peut toucher le chrétien en particulier. Et on voit certainement dans l'Ancien Testament la correction de Dieu, oui, pour le peuple d'Israël, mais combien de fois on voit qu'il y avait une persécution. Pour la nation d'Israël, c'était peut-être les pays voisins. Parfois, c'était des fils à l'intérieur de la famille royale. Toutes sortes d'oppositions. Dans le Nouveau Testament, certainement, la plus grande opposition qu'on connaît, c'est la condamnation d'un homme juste qui s'appelait Jésus-Christ, qui est envoyé ici sur cette terre pour réconcilier l'humanité avec lui, qu'on a accusé, condamné injustement et qu'on a fait souffrir la plus grande épreuve, je dirais, qu'un homme peut avoir à sa mort. On l'a crucifié sur la croix, abandonné par son père. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, on lit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc, on pourrait dire de ce verset-là que si on veut éviter l'opposition, la persécution, c'est de ne pas vivre comme un chrétien, mais vivre comme le monde vit. Mais ce n'est pas ça à quoi que Dieu nous appelle. Et il y a aussi les épreuves qui sont particulières pour les dirigeants du peuple de Dieu. Certainement, on voit la persécution, l'opposition même du peuple de Dieu envers Moïse ou envers les prophètes de l'Ancien Testament. Mais on peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait opposition envers les dirigeants de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui en 2025. Et ça fait quelques années là, que je fais partie de l'Église et je peux vous dire que c'est une réalité, ça, l'épreuve qui est envers les dirigeants. Il ne faut pas s'en étonner. L'épreuve produit la persévérance selon Jacques, chapitre 1, les versets 2 à 3. Donc, le dirigeant de l'Église a besoin aussi d'être touché par l'épreuve afin de grandir dans sa persévérance, mais aussi dans sa dépendance de Dieu, dans sa confiance à Dieu. Une autre raison pourquoi les dirigeants vont être persécutés, c'est que c'est eux qui parlent publiquement à l'Assemblée de Dieu, mais aussi à la société. Et la prédication de l'Évangile n'est pas consistante, cohérente, n'est pas agréable aux oreilles de ceux qui ne croient pas. Alors, on va nous accuser d'avoir un langage de haine. On va nous accuser de ne pas permettre liberté à ceux qui n'ont pas notre perspective. Mais en même temps, on ne permettra pas trop à ceux qui prêchent, à ceux qui sont les dirigeants d'Église, de parler de ce que la Bible dit. Donc, ça attire une opposition aux dirigeants. Les dirigeants sont appelés à épargner ceux que Dieu leur a confiés. Colossiens 1, 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplie dans ma vie ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps. » Et son corps, ce sont des gens que Dieu lui avait confiés. Donc, devant cette réalité, on peut comprendre que les dirigeants du peuple de Dieu, ça doit être des gens que Dieu appelle, que Dieu a formés, que les autres aussi, dirigeants, doivent accompagner dans leur formation pour être prêtes à endurer l'épreuve qu'ils vont subir parce qu'ils sont des dirigeants. Mettre au défi les jeunes qu'on approche pour et qu'on croit que Dieu appelle à être un ancien. Des fois, je dis, on devrait donner des épreuves nous-mêmes, les critiquer pour voir comment ils réagissent, pour les préparer quand la critique va venir du peuple de Dieu. Certainement que ce n'est pas l'affaire à faire. Mais quand l'épreuve vient dans ma vie, dans votre vie, notre réaction, eh bien, c'est un cri de tout notre être. Et le cri, c'est « Dieu, pourquoi tu fais ça? C'est injuste. Je ne mérite pas cela. L'épreuve est trop lourde. Je me sens abandonné. Jésus-Christ à la croix. » T'es abandonné par son Père. Et combien de fois on exige de comprendre pourquoi je vis telle épreuve. comme Job désirait un entretien avec Dieu pour comprendre. Et on voit dans les psaumes de lamentation, David exprimer son état d'âme à l'Éternel. Il va avec des plaintes, des pleurs, des doutes et, je dirais même, des accusations. Des fois, on va entendre dans les psaumes, « Seigneur, tu dors? Si, tu n'es pas là. » Imagine, Dieu qui est omniscient, qui est omniprésent, qui est tout-puissant. Eh bien, on l'accuse de ne pas intervenir quand que nous, on croit qu'il devrait intervenir. Eh bien, cette réaction, elle est normale. On a des émotions, on a des tristesses. Et ces psaumes sont là pour nous dire, c'est correct, mon enfant. Tu peux crier, tu peux pleurer. Et Dieu, dans notre tristesse, dans notre dépression, dans notre découragement, accomplit son travail. Et même si nous avons une grande connaissance de la Bible, ferrée en théologie sur la souffrance, eh bien, quand l'épreuve arrive, on n'est pas différent des autres. Ça devrait nous aider. Et il y a un John Feinberg dans le livre que Timothy Keller a écrit, Knowing God in Pain and Suffering. C'est un livre que j'ai lu là, en préparation de cela. Et c'est un homme qui avait les réponses rationnelles. J'aime dire que c'est facile parfois d'avoir une connaissance. Puis si je passe un examen, j'aurai toutes les bonnes réponses sur la souffrance. Mais quand l'épreuve vient, les réponses que j'ai mises par écrit, que j'avais ici dans ma tête, ne sont pas celles que j'ai vraiment dans mon cœur. Et quand l'épreuve est venue, elle est rentrée dans sa vie, et là, comme chacun de nous, éprouvé un tel désespoir qu'il n'était plus capable de fonctionner. Et il connaissait toutes les vérités bibliques sur le mal, la souffrance, mais maintenant, ces vérités lui amenaient peu de consolation. Il était rempli de colère, et avec cela venait un sentiment d'abandon et l'absence de Dieu dans sa vie. Don Carson, l'auteur d'un livre, How Long, O Lord? Comment longtemps, Seigneur, est-ce que la souffrance va durer? Dit, cela ne veut pas dire pour autant que l'ensemble des croyances de cet homme ou que nous pouvons avoir soit sans importance. Mais le chrétien, pour y trouver du réconfort, doit apprendre à les utiliser jour après jour, des fois chaque minute. C'est une chose de croire en Dieu, mais c'en est une autre de lui faire confiance dans les temps difficiles. C'est une chose d'avoir une explication de tête pour laquelle Dieu permet la souffrance. Et je vais vous donner certains arguments. Certains versets qui démontrent que ça fait partie du plan de Dieu, la souffrance, les épreuves. Mais c'en est une autre de trouver réellement un chemin à travers la souffrance, afin qu'au lieu de devenir plus amer, cynique, découragé et brisé, qu'on devienne plus sage, plus équilibré, plus humble, plus fort et même satisfait dans la souffrance. Dans le livre de Tim Keller, il y avait des partages, des témoignages à peu près à chacun des chapitres. Et il y en a un, c'est un homme là, vraiment frappé par une épreuve énorme. Et il disait, « Ah, je ne sais pas ce que je ferais si je n'avais pas passé ces années d'épreuves-là et comment je me suis rapproché de Dieu. » Eh bien, ça prend tout un travail de la part de Dieu dans le cœur de ceux qui passent à travers une épreuve. Keller dit, alors, utiliser son intelligence pour donner un sens à la souffrance, c'est important. Et on va faire ça ce matin. Mais cela doit s'accompagner non seulement d'une connaissance de Dieu, mais aussi du fait de connaître Dieu. C'est différent, connaître d'une personne, puis ensuite de la connaître. C'est différent. Une des personnes dans le livre de Keller, c'est une Martha. Elle et son mari, Mark, ont vécu quelque chose de vraiment terrible. Quand on lit la description, on se dit, c'est affreux. Et elle dit ceci. Après, elle était encore dans l'épreuve, mais elle avait passé le temps où elle était en colère, où elle ne comprenait pas. Et elle dit, « Comment j'ai réussi à sortir du désespoir reste un mystère. Intéressant, ça. Je n'avais pas conscience d'avoir été appelé, mais j'ai pourtant ressenti un sentiment de résurrection. Elle a trouvé un sens, un but, de la joie, de la croissance, une plénitude, même dans la perte qu'elle et son mari avaient. Elle dit, « Combien j'aurais manqué si j'avais choisi de ne pas vivre cette saison dans l'épreuve. Dieu m'a tant donné au milieu de tout cela. Je vois comment une douleur intense et une douceur intense se mêlent. La profondeur et la richesse de la vie sont venues dans la souffrance. Combien j'ai appris et combien Jésus est plus doux pour moi maintenant. » Et le ministère dont parle cette femme me fait penser, pas au ministère, mais au mystère dont parle cette femme, me fait penser au ministère qui a fait que Gilles Farley est devenu un enfant de Dieu. Je vous dis, j'avais 33 ans. toutes sortes de raisons que je m'étais données, que je donnais à ceux qui m'évangélisaient pour ne pas mettre ma confiance dans le Seigneur. Et je dirais à l'âge, il y a des choses qui sont arrivées et je ne peux pas dire, ah, telle chose a fait que je me suis reconnu comme étant pécheur, condamné par Dieu. Non, c'est une série d'événements. Et je crois que c'est le travail de Dieu dans mon cœur, un mystère qui a fait qu'un jour, je me suis reconnu pécheur et que j'ai reconnu aussi qu'il y avait une seule façon d'être réconcilié avec Dieu et c'était de mettre ma confiance dans ce personnage, Jésus-Christ, qui était Dieu, qui a pris la forme d'un homme, qui a grandi, qui a été mis à mort. Ça prenait un mystère pour que moi, je crois à cette histoire qui est complètement ridicule pour la plupart des gens. Et je comprends pourquoi c'est ridicule. C'est impossible de saisir cela à moins que Dieu fasse un travail. Et je crois que c'est impossible pour nous de sortir de l'épreuve sans que Dieu fasse un travail qu'on ne comprendra pas, mais qu'on va constater. Maintenant, un philosophe allemand, Schiller, je ne suis pas certain que je prononce son nom comme il faut, a souligné le caractère unique de l'approche chrétienne. Parce que chacune des cultures cherche à équiper leur population pour faire face à l'épreuve. Parce que tu sois chrétien ou non, l'épreuve est là. Et le peuple a besoin d'être aidé pour passer à travers. Il souligne le caractère unique de l'approche chrétienne. Il écrit qu'à certains égards, l'enseignement chrétien sur la souffrance semble être un renversement complet d'attitude par rapport aux interprétations de d'autres cultures et systèmes religieux. C'est pas étonnant. Paul nous dit dans 1 Corinthiens que le message de l'Évangile, c'est une folie pour ceux qui l'entendent. Eh bien, pour bien saisir l'enseignement que la Bible apporte, Keller et Carson disent qu'il faut examiner au moins 4 vérités pour le comprendre. Et vous avez là devant vous les 4 sujets, les 4 thèmes qu'on doit examiner, sur lesquels on doit réfléchir. Premièrement, il y a la création, Dieu. Cet esprit qui existe de tous les temps, qui est le créateur de l'univers et qui détermine que qu'est-ce qu'il a fait dans Genèse chapitre 1, que cela était bon, même que cela était très bon. Et là, on arrive au chapitre 3 et le deuxième thème, c'est la rébellion de l'homme qui a marqué le début de la souffrance, de la peine, de la douleur, de la mort. Et on voit les conséquences de cette rébellion, la séparation entre Dieu et l'être humain, entre l'homme et la femme. entre la postérité de la femme, Jésus-Christ, et Satan. L'impact sur la femme qui va, dorénavant, accoucher en douleur. Et l'homme qui va devoir travailler à la sueur de son front. La conséquence de la rébellion de l'homme n'a pas juste une conséquence sur le serpent, Adam, Ève et toutes les générations qui suivent. Dans Romains chapitre 8, le verset 22, ça dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et soupire les douleurs de l'enfantement. » Et c'est une réalité. Et cette réalité, la Bible nous dit, va demeurer jusqu'à la fin. Et dans l'Apocalypse, on voit, Apocalypse 21, au verset 1, « Il va y avoir une nouvelle terre, de nouveaux cieux, une nouvelle Jérusalem. Dieu va habiter avec nous et il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » On désire être à ce moment-là. Et j'entends souvent des gens qui le désirent tellement qu'ils se disent, « Ah, oh, tiens, je pense que ça va arriver la semaine prochaine. » J'ai rarement entendu des gens dire la semaine prochaine, mais j'ai entendu des gens dire, « Ah, oh, je pense qu'on est proche, là, peut-être un an. Là. Regarde, tel événement est arrivé. » Préoccupez-vous pas de ça. Le Seigneur le sait, lui. Il nous dit, « Toi, sois prêt. » Mais quand même, on a dans notre cœur ce désir qu'un jour, ça va arriver. Et on va être délivré de tout cela. 2 Pierre, on est déjà rendu à comment... Je ne suis pas certain de comprendre quel... Ben, regardez ici. Ah, OK. Donc, c'est celle de gauche qui apparaît sur l'écran. Alors, c'est bon. Je ne paye pas pour rien, Florian. Alors... Il y a aussi 2 Pierre 3, verset 13, « Nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Certainement, c'est bien d'espérer, de désirer cela. Et c'est clairement une promesse que Dieu va tenir. Maintenant, entre le début et la fin de la Bible, la période dans laquelle on est, eh bien, il y a la souffrance. Et le mal est la cause première de la souffrance. Mais c'est la rébellion de l'homme qui est la racine de tout le mal, de toute la souffrance. Et le quatrième point qui est sur la diapo, eh bien, c'est le message important. Celui qui nous dit... que enfin, cet homme, Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu sur cette terre. Il a eu un ministère envers les Juifs en premier, mais pas seulement les Juifs, et prêchait l'Ancien Testament, accomplissait des choses qui annonçaient sa venue, mais ça dérangeait. Et on l'a mis à mort. Et comme j'ai dit tantôt, une mort affreuse. Alors, c'est un élément important, cela. On voit tout est lié à la rébellion de l'homme. Mais déjà dans son plan, Dieu avait l'idée de réparer cette rébellion pour ceux qui croiraient dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ comme étant le Messie de l'humanité. On voit cela mentionné dans un verset que je me souviens quand on fut venu au Seigneur, on faisait le maître et son disciple Paul. Dans ce temps-là, c'était la seule source. On apprenait des versets pour chacune des leçons. Mais un des versets, c'est Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Oui, oui, oui. Mais le verset finit pas là. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. De ces passages, on peut conclure que premièrement, la souffrance et le mal font partie du plan de Dieu à cause de la chute, mais aussi à cause de la mort de Jésus-Christ à la croix. Et deuxièmement, la conception chrétienne de la souffrance est dominée par cette idée de grâce. En Christ, nous avons reçu le pardon, l'amour, l'adoption dans sa famille. Mais on ne méritait rien de cela. On méritait la mort éternelle. Mais par la grâce, on peut devenir un enfant de Dieu. Alors, comment se préparer à cette souffrance qui fait partie du plan parfait de Dieu, qui est au centre de son plan, qui est essentiel? Eh bien, j'ai pensé que l'une des choses, ça serait de se défaire des fausses promesses. C'est intéressant, ça. Lors d'une dernière prédication, Jean-Sébastien, qui est ici, là, nous a parlé sur le caractère de Dieu. Il a commencé par nous faire des promesses intéressantes. Je dirais pas fausses, mais je trouvais intéressant. J'étais tout de suite animé, là. Je pensais que peut-être il était pour les réaliser, là, donner 1 million à chacun dans l'Assemblée, payer la dette du Canada, du Québec. J'avais de la misère à rester sur ma chaise jusqu'à temps qu'ils me disent qu'ils ne pouvaient pas le faire, que c'était des fausses promesses. Puis ils nous préparaient pour nous rappeler que Dieu, lui, ne fait pas des fausses promesses. Il est capable d'accomplir les promesses. Bien, sur la souffrance, on est capable aussi d'avoir des fausses attentes. Ces fausses attentes-là sont néfastes. L'une, Carson, dans son livre « How Long, O Lord » dit « L'une des principales causes du chagrin et de la confusion dévastateur chez les chrétiens est que nos attentes sur le mal et la souffrance sont fausses. Au moment de l'épreuve, les croyances sur la souffrance qui ne sont pas en accord avec la Bible peuvent multiplier la souffrance de beaucoup lorsque nous commençons à remettre en question les fondements même de notre foi. » Donc, quelles sont quelques-unes de ces fausses promesses, fausses compréhensions? Et l'une d'elles, c'est que le mal n'arrivera pas ici, à l'Église de Sentier. Il n'y aura pas un terroriste qui va ouvrir la porte et commencer à tirer, j'espère, sur Normand en premier. Ensuite, on pourra s'en aller. Non. Pourquoi? Parce que notre Église, c'est une Église qui cherche à faire ce qui est agréable à Dieu. On cherche à comprendre, enseigner la parole correctement. Et non, ça ne peut pas arriver chez nous. On entend ça des fois aux nouvelles quand il y a eu un désastre, soit un féminicide, puis là, on parle aux voisins, puis ils disent oh, « Jamais, jamais, j'aurais pensé que ça serait arrivé dans notre rue. » Mais c'est faux. C'est faux. C'est une mauvaise compréhension. Ça peut arriver en tout temps. Et l'autre l'autre promesse, eh bien, écoute, si moi je mène une bonne vie, j'en aurais pas d'épreuve. C'était l'argument des mauvais consolateurs à Job qui constamment poussaient Job au mur puis disaient « Hey, là, Job, tu as vécu tout ça, là, mais il y a un péché, là. Ah oui, confesse-le ton péché. Il y a un péché, là. Sans ça, ça n'aurait pas arrivé. » Mais ça aussi, c'est pas vrai. Ah! Ce qui est vrai, c'est que les épreuves, la souffrance, c'est la conséquence de la rébellion de l'homme qu'on retrouve dans Genèse chapitre 3. Mais c'est pas vrai qu'une épreuve que je vais vivre, c'est qu'à cause d'un péché que Gilles a. Et loin de dire que Gilles n'en a pas, mais ce n'est pas la conséquence directe du péché que toi ou que moi j'ai. Et l'autre que peut-être, surtout les gens qui viennent au Seigneur, qui ont eu un temps difficile, la drogue, l'abus, des relations brisées, ils disent, ah là, maintenant, j'ai mis ma confiance en Dieu. Tout va aller bien. Mais, en réalité, je viens de mentionner les épreuves qui sont le résultat de l'opposition, de la persécution de la société. Et donc, si je viens au Seigneur, puis je suis un conjoint, puis mon conjoint n'est pas au Seigneur, je peux m'attendre que les choses vont aller pire dans un sens. Et dans notre société, je travaille dans un travail, puis je n'apportais pas nécessairement toutes les heures que je travaillais pas, puis des fois, j'amenais des choses à la maison, puis... Mais là, je viens au Seigneur, puis là, j'arrête de faire ces choses-là. Pensez pas que les autres collègues vont trouver ça plaisant, là. Ils vont se sentir jugés. Les choses vont rempirer. Et c'est pas vrai, donc, quand on vient au Seigneur, qu'il n'y aura pas d'épreuve. Ce qui est vrai, c'est que le Seigneur va être avec nous. Et on a chanté le chant tantôt, un chant qui rappelle les paroles de Paul. « Ma grâce te suffit. » Dans les épreuves, dans les difficultés que tu vas vivre, ma grâce te suffit. Je vais être avec toi. Puis ensuite, il y a la pensée que Dieu doit toujours m'expliquer tout. Quand quelque chose arrive, là, c'est normal que je m'attende que Dieu dise, « Gilles, viens t'asseoir ici, là, je vais t'expliquer pourquoi telle chose arrive. » Eh bien, ça, c'est une fausse attente. Job n'a jamais su pourquoi il vivait ces épreuves-là. Même à la fin du livre, Dieu ne dit pas, « Job, viens, moi t'expliquer. » Joseph a eu ce privilège-là, mais... Il a été vendu par ses frères, esclave en Égypte, promu. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi ces choses-là étaient arrivées. Et à la fin, dans Genèse, chapitre 50, il saisit pourquoi c'était arrivé. Mais il y a bien des choses qui peuvent nous arriver sans que Dieu nous explique, nous amène à comprendre. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi ces choses-là arrivent? Il y a ensuite, qui est relié à des fausses attentes, mais ce sont des mauvaises interprétations des passages bibliques. Demandez et vous recevrez. Combien j'entends ça? T'es malade? Seigneur, guéris-le. Et il va te guérir. T'as déjà répondu à ma prière. Mais... on doit demander et on va recevoir. Dieu répond aux prières. Mais il répond aux prières quand nos demandes sont selon sa volonté. Pas quand ce sont des choses que nous, on pense qu'on a besoin. Matthieu 6:8 dit, « Votre Père sait ce que vous avez besoin. » Paul était achalé par une écharpe dans la chair. Hein? 2 Corinthiens, chapitre 12. Trois fois, il dit, « Hey, Dieu, enlève-moi ça, là, ça m'achale. » Et Dieu ne l'a pas enlevé. Dans son cas, Dieu lui a dit pourquoi il ne l'enlevait pas. « Si j'enlève, tu risques de devenir orgueilleux. » Savez-vous, je pense que ce n'est pas le seul chrétien qui a ce risque-là. Je pense que je ne demande pas à Dieu que j'aie une écharde. Mais non, Dieu ne répond pas à toutes les demandes que je lui fais. J'ai parlé au début de ma vie chrétienne, il y avait le psaume 37:4 que j'aimais donc et réciter. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Non, mais une belle promesse. « Il donnera ce que ton cœur désire. » J'avais oublié la première partie du verset. C'est « Fais de l'Éternel tes délices. » Et si je fais de l'Éternel mes délices, les pensées de mon cœur vont être selon ce que Dieu veut que je demande. Donc, fais de l'Éternel tes délices et ton cœur va demander à Dieu ce que Dieu veut pour toi, ce qui est selon ta volonté. Donc, la réponse de Dieu est toujours pour l'accomplissement du plan qui est là pour nous. Pas l'accomplissement du plan que moi, j'ai pour moi. Non, non. Dieu répond aux prières pour l'accomplissement du plan qui est là pour moi. Et parfois, c'est non. Si c'est pas selon sa volonté, la réponse est non. Et si c'est selon sa volonté, c'est lui qui décide le quand et le moyen. Et le quand, c'est toujours en opposition à mes attentes. Parce que moi, ce matin, aussitôt que j'ai fait cette demande-là, que Dieu, il est là, il va répondre tout de suite. Mais non, c'est lui qui détermine le temps et le moyen. M. Alexénien est décédé, ça fait quoi, un an et quelques, David? Hein? Mois d'octobre 2023. Et quand on allait voir M. Alexénien, voici ce qu'il nous disait. Puis il n'était pas bien, là. Il nous disait, « Je veux pas que tu pries pour ma guérison. » Non, mais tu sais, quand tu es malade, prier pour une guérison, c'est... Il dit non. « Je veux que tu pries pour que la volonté de Dieu soit faite. » Et dans un sens, si Dieu veut que je guérisse, eh bien, je vais guérir. Mais si dans le plan de Dieu, c'est pas que je guérisse, que je passe par un temps de maladie avant de décéder, si c'était pas le plan de Dieu pour que Paul puisse enlever les charges qu'il avait dans sa chair, eh bien, Dieu ne l'a pas enlevé. Donc, c'était bien, c'était un bon enseignement quand M. Alessian nous disait cela. Ne priez pas pour ma guérison, mais priez pour que la volonté de Dieu soit faite. Et il y a ce verset 16-9, « Le cœur de l'homme peut méditer sa voix. » Ah, on est créatif. On a des plans, puis c'est bon. Dieu nous a créés pour avoir des plans. Mais la dernière partie du verset, Proverbe 16-9, c'est « Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Et parfois, c'est contraire à ce qu'on médite, ce qu'on fait comme plan. Mais je dois accepter cela. Ensuite, on doit se rappeler que la souffrance est centrale au plan de Dieu. Il y a encore là, un spécialiste en psychologie sociale, un monsieur, un Américain encore, qui dit souvent, il dit qu'il existe des preuves selon lesquelles les gens ont besoin d'adversaires, de revers et peut-être même de traumatisme pour atteindre les plus hauts niveaux de force, d'épanouissement et de développement personnel. Bien, ils ont découvert ça. On ne veut pas chercher le stress, on ne veut pas chercher les épreuves. Mais dans un sens, ça veut dire que les psychologues de notre société réalisent que parfois, il est nécessaire qu'on ait un temps difficile pour atteindre un certain niveau. La souffrance étant au cœur même de la foi chrétienne, on doit l'accepter. Elle n'est pas seulement le moyen par lequel Christ est mort, la souffrance, mais il semble que c'est l'un des principaux moyens par lesquels nous devenons semblables à lui et faisons l'expérience de la souffrance, des épreuves. Philippiens 1, verset 29, nous dit, « En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » Il nous a pas fait la punition, mais la grâce. Et la grâce, c'est quelque chose qu'on reçoit pour notre bien et pour notre avancement. Et on peut voir dans 1 Pierre, qui est vraiment une épître qui parle beaucoup sur la souffrance, et les versets 19-20 nous dit c'est par grâce, c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder une bonne conscience envers Dieu. En effet, Quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. La souffrance est réelle dans la vie du chrétien. Et on doit s'en attendre et on doit l'accepter comme une grâce de Dieu. 1 Pierre 2,13 nous dit à peu près les mêmes choses. Alors, c'est important qu'on se rappelle que la grâce de Dieu est un moyen de Dieu pour travailler dans nos vies. Elle permet d'être glorifié en lui. Et Romains 8, 17 à 18, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, elle permet d'être glorifié en Jésus-Christ. Elle permet de saisir la grandeur de Dieu. Jean-Sébastien nous a parlé qu'une chose qui est importante, c'est de comprendre qui est ce Dieu. Eh bien, souvent, notre meilleure compréhension de qui est Dieu va arriver à travers la souffrance, dans la méditation, dans la lecture, dans la prière. Arriver à saisir la grandeur de Dieu, son amour nous dit qu'il est presque incalculable. Comment il nous est impossible de tout comprendre de lui, de saisir cela, qu'il est tellement plus grand que nous, et faire de lui ce qui est de plus précieux, de plus important. Elizabeth Elliot est un missionnaire en Amérique du Sud. Vous connaissez peut-être son histoire. Elle écrit plusieurs livres. Elle s'est mariée. Son mari est un missionnaire, mais ils ont été tués. Et elle était vraiment pas contente de ça. Et ça l'a amenée à se demander si elle devait faire confiance en Dieu. Elle ne comprenait pas cela. Mais après plusieurs années, elle a compris qu'elle traitait Dieu un peu comme un autre être humain. Dieu était là pour l'aider dans les projets qu'elle avait. Et quand elle est venue mettre fin à ces projets-là, elle ne le saisissait pas. Mais elle a compris que c'était de traiter Dieu comme un autre être humain, pas comme Dieu. Elle avait créé une image de Dieu qui était fausse, selon la Bible. Il faut reconnaître que Dieu est infiniment au-delà de nous, beaucoup plus glorieux que nous, beaucoup plus sage que nous, que son plan est parfait. Et elle a reconnu dans les livres qu'elle a écrits qu'avant l'épreuve, Dieu n'était qu'une aide pour accomplir ses plans. Mais que là, elle avait accepté ce qui lui était arrivé et elle comprenait. Je ne comprends pas pourquoi, mais Dieu a un meilleur plan. Ensuite, dans l'épreuve, on peut glorifier Dieu devant ceux qui nous regardent. Et ça, c'est assez important. Pierre-Étienne n'est pas là pour rien, lui, là. Hein? Alors, je vais aller aux différentes façons que Dieu, on doit se préparer, se défaire des fausses doctrines, se rappeler que la souffrance est centrale à Dieu. L'autre, c'est marcher et non courir. Et le proverbe 23-24, premièrement, la métaphore de marcher est utilisée beaucoup. Il y a aussi d'autres métaphores, d'être dans les eaux profondes, d'être dans la fournaise, comme un Pierre dit. Mais marcher a certains sens qui est important de se rappeler. Marcher implique un progrès. On marche toute la journée, à moins qu'on soit collé au lit. Dieu nous aide là. On marche constamment. Donc, marcher avec Dieu, c'est développer des habitudes au quotidien où on entretient une relation avec Dieu. Dans la lecture, dans la prière, dans le service, mais on cherche vraiment d'établir des habitudes au quotidien. Pas de le faire un peu comme courir un marathon. Fais ça deux fois par année. Mais non, la marche signifie qu'à chaque jour, on le fait. Quels sont... comment est-ce que Dieu utilise les épreuves? Eh bien, il transforme son enfant. Il nous force à remettre en question nos priorités, ce qu'on trouve important. Et dans la souffrance, on réfléchit et ça nous amène qu'il y a peut-être des choses qui sont bonnes, mais qui sont devenues prioritaires et que Dieu ne prend plus la première place. Renforcer notre relation avec Dieu, parce que souvent, dans notre découragement, notre dépression, on fait comme David faisait dans les psaumes, et on crie à Dieu. Mais de cela, on développe une relation beaucoup plus profonde avec lui. Puis ensuite, bien, on sait que la souffrance nous prépare à devenir nous-mêmes des consolateurs. Donc, les promesses de Dieu, il y en a plusieurs. Dieu est immuable, fidèle, bon, miséricordieux, tout-puissant, souverain. Il est avec nous. Il marche avec nous. Il nous abandonne. Il est présent quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et il nous donne la grâce que nous avons besoin. Sa grâce nous suffit. Et il nous donne une paix dans la souffrance. Son amour ne faiblit pas. Et si dans l'épreuve, on dit « Dieu ne m'aime plus », c'est un mensonge. Dieu a déjà prouvé la grandeur de son amour en mourant à la croix. Et il transforme l'épreuve pour le bien, comme nous dit Romains 8, 28, mais dans son temps, à sa manière. Prions, Seigneur Dieu. Seigneur, la souffrance va être là si elle ne l'est pas déjà. Mais on peut mettre notre confiance en toi et attendre à ce que toi, tu fasses un travail dans le cœur du croyant pour qu'il puisse être capable d'en sortir, même s'il ne comprend pas. Seigneur, il n'y a pas quelque chose. Il peut mettre sa confiance dans ta fidélité et dans tes promesses. Au nom de ton Fils. Amen.